cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, Frédéric Da Silva passe aux aveux et c'est la panique au sein du crime organisé. Félix Séguin, l'effet que ça a sur le crime organisé est vraiment important.
Ah, écoute, de plus en plus, on a appris au cours des dernières heures et l'article que l'on a signé avec Éric Thibault en témoigne aujourd'hui là au bureau d'enquête dans le Journal de Montréal, que ce n'est pas fini, cette peur, cette angoisse, cette fébrilité pour les policiers aussi, parce que au fond, ce qu'on vous apprend, c'est que dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Silva, il y a des figures importantes du crime organisé montréalais, tant chez la mafia que les Hells Angels, que d'autres factions du crime organisé qui ont quitté le pays. Et on a décidé volontairement de ne pas nommer ces gens-là, même si on sait c'est qui. Parce que, bon, pour te faire un résumé, parce que c'est juste du trouble si on les nomme. Et faut bien dire aussi que certains ont le droit de prendre des vacances estivales, comme tout le monde. C'est juste que là, leurs vacances, ça donne... quelques jours après que Silva se fasse arrêter. Alors, vous trouverez ça dans l'article signé par Éric Thibault et moi-même ce matin. Par contre, vous trouverez un peu plus que ça, parce que on a consulté, exemple, Roger Ferland, qui est un enquêteur à la retraite du SPVQ, le service de police de Québec. Et lui, il dit, et j'aime ça la manière dont il dit, il y a des bandits qui doivent freaker présentement, par crainte de se faire dénoncer justement par Silva. C'est juste que, étant donné que Silva est le dépositaire de tant de secrets, puis on s'en était parlé un peu hier, mais répétons-le là pour plus de clarté, il a soit commis, a soit été complice, a soit été commanditaire, ou connaît directement des gens impliqués dans des meurtres, et c'est plus que Gérald Galland, le nombre de meurtres sur lesquels il aurait permis de faire la lumière, c'est donc plus que 28. Alors, tu imagines toutes les personnes, parce que des fois, finalement, le meurtre lié au crime organisé, c'est un événement dans lequel, des fois, plus de gens que l'on pense trempent. Il y a celui qui a l'idée, pour une raison, pour une revanche, ou pour prendre sa partie du marché, de tuer un individu. Il y a celui avec qui, celui avec qui il va en parler de ça. Il y a des gens qui vont penser au plan, peut-être ça fait partie du même groupe, puis des gens qui vont exécuter le plan. T'imagines tous ceux qui ont une connaissance de ça aujourd'hui dans le milieu du crime organisé montréalais, et c'est là où Roger Ferland dit ils doivent freaker.
On pourrait les retrouver en faisant la file, soit à l'aéroport Montréal-Trudeau, ou soit à Passeport Canada.
À Passeport Canada, peut-être, oui, t'as absolument raison. Roger Ferland ajoute, lui qui a enquêté sur une dizaine de meurtres qui ont été commis par le tueur à gages Gérald Galland dans les années 90, il nous fait plonger un peu dans ce qui se passe là dans l'équipe spéciale qui a été formée par la Sûreté du Québec, le SPVM, certains agents de la GRC peut-être, mais une équipe d'élite là pour essayer de corroborer ce que dit Silva, parce que c'est ce qu'ils font présentement. Là, Silva fournit des déclarations. Et là, on tente de trouver des éléments de corroboration par des moyens d'enquête ou dans certains dossiers de police où ces éléments de corroboration existent peut-être. Je te donne un exemple. Dans un meurtre X non élucidé, Silva déclare, bon, dans tel meurtre commis en septembre 2010, j'invente une date comme ça, là, mais le revolver qui a été utilisé, c'était un 357 Magnum de modèle X et de marque Y. Il a été jeté dans la rivière Lachigan à telle date, dans tel secteur. Si les policiers ont retrouvé les douilles du 357, ils savent qu'il y a un 357 qui a tué la personne sur laquelle ils ont enquêté. Puis là, ils vont aller peut-être fouiller, je sais pas moi, les berges ou draguer le fond d'une rivière, la rivière Lachigan dans une portion. Puis là, ils vont peut-être trouver l'arme à feu, le 357, ils vont le relier avec les douilles. Silva va dire, tu comprends que tout ça...
Mais la, écoute, chaîne, Yasmine, la chaîne d'enquête, la chaîne qui s'entame avec une seule déclaration, et on est capable d'aller chercher d'autres preuves.
Oui, mais c'est long en temps. Je veux juste le dire, là. Tu t'en doutes, là. Il y a tant de meurtres, il faut prioriser. Et puis quand je dis qu'il faut prioriser, on n'est pas sans savoir que il y a comme une. Tu sais, dans les dossiers devant qui seront amenés devant la justice, ça te prend une théorie de cause, hein. Tu sais, les avocats, là, ils sont un peu comme, à certains égards, je te dirais, les scénaristes ou les journalistes ou les réalisateurs, quand on essaie de raconter une histoire, ça te prend une trame que tu imagines pour faire comprendre aux gens à qui tu t'adresses ce de quoi tu vas parler, pour rendre l'information que tu veux passer, puis t'as vérifié, est disponible. Ça te prend quelque chose pour l'expliquer aux gens. Il faut que tu racontes une forme d'histoire autour de tes chiffres, autour de tes vérifications, autour de tes données, pour les rendre comestibles au public. Ben, la théorie de cause, dans le cas de Silva, il faut qu'il y en ait une. Et justement, cette théorie qui est en train, on dirait, de s'articuler, c'est la théorie qui part de Mago. Mago, là, je sais pas si tu te rappelles, Mago Mastiff 2015 au Québec, Yasmine, c'est une des plus grandes opérations policières. Ça a permis d'arrêter plein de membres du crime organisé, dont Leonardo Rizzuto, dont Stefano Sollecito. Ils ont été relaxés par la justice, mais n'empêche... Dans cette opération Mago, on a en photo Leonardo Rizzuto, Stefano Sollecito et Frédéric Silva. Tu vas me dire, une photo, c'est pas la preuve que quelqu'un trempe dans un meurtre? Je vais te répondre, vrai Yasmine. Par contre, ça veut toujours bien dire que ces gens-là se connaissent. Donc, circonstanciellement, là, ils sont aperçus plusieurs fois ensemble, puis Silva est un tueur à gages. Pourquoi? Donc, dans un premier groupe de prévenus, il pourrait y avoir des gens liés à l'opération Mago. On dirait que c'est en train de se dessiner dans les cartons policiers et judiciaires. Voilà.
Toute une histoire qui n'a pas fini de nous tenir en haleine. Là, on va en apprendre plus au fur et à mesure que ces informations émergent, disons-le. Ça va être assez passionnant. Sinon. D'un autre côté, c'est pas mal moins passionnant, pas mal plus dramatique. L'horreur qui a frappé une famille sans histoire, un énième féminicide, Félix.
C'est effectivement et sûrement pas passionnant du tout. C'est plutôt confrontant, puis c'est encore choquant, même si on en voit beaucoup trop souvent. Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Jonathan da Rosa Queiroz et Camille Rodriguez Vital de Queiroz, un couple de Brésiliens qui est installé au Québec depuis une dizaine d'années, semblait, selon le voisinage, remarque que c'est toujours ce qu'on entend quand on parle à des voisins, souvent c'est pas les meilleurs témoins de ces états de situation-là, semblait vivre une vie rangée, tranquille, harmonieuse. Rappelons-le, il y a personne qui sait ce qui se passe dans une maison quand la porte est fermée. Et puis, Jonathan da Rosa a manifestement assassiné Camila avant de quitter avec une fourgonnette, puis d'avoir tenté de se blesser lui-même. Puis il a réussi parce que les policiers l'ont retrouvé 2 kilomètres plus loin à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et ils ont défoncé la portière de la fourgonnette. Ils l'ont sorti, ils ont tenté de le masser. Bref, sans succès. Et puis, donc, Camila a été retrouvée dans la maison. Le beau-père brésilien qui était en visite dans la famille, lui, a été ligoté. C'est donc, il y a un tel degré de préméditation qu'on a cru bon ligoter, monsieur, puis il y avait des enfants quand ça s'est passé. Écoute, quoi dire de plus? Je sais pas.
Ça donne la chair de poule de savoir que des histoires, des drames comme ça se font encore dans les maisons des familles du Québec. Encore une fois, les personnes qui se sentent en danger peuvent faire appel à SOS Violence Conjugale avant que ça ne soit trop tard. Il y a des suspects qui ont été arrêtés et traduits en justice hier, Félix, qui semblaient avoir été qui étaient équipés pour un véritable carnage. Là, tu sais, on parle de du monde avec des armes, gestes,
oui.
Veste par balle, le
oui,
Far oui. West, là.
Le Far West, puis c'est eux qui ont manifestement tiré sur des passants choisis au hasard la semaine dernière à Montréal. Alors, ils étaient équipés pour commettre un carnage, sont inculpés, sont accusés de plusieurs chefs en lien, bien sûr, avec des armes à feu. 11 autres chefs s'ajoutent, dont 3 tentatives de meurtre survenues à 24 heures d'intervalle dans RDP. Il y a des dizaines de balles qui ont été tirées, mais c'est l'armement qui est assez incroyable dans ça. Un Glock 22 qui peut, avec un chargeur de grande capacité, c'est illégal, hein, les chargeurs de grande capacité, qui peut contenir 30 balles. Juste ça. Franchement, c'est pas mal. Tu as parlé des vestes balistiques aussi. Effectivement. Des gros chargeurs aussi. Le triple à limite permis, je t'en ai parlé. Bref, je voulais justement, là, te dire que, t'sais, quand on parle du problème de la disponibilité des armes à feu, il y a la disponibilité des chargeurs aussi, parce que si t'as un chargeur qui contient 30 balles, puis si t'en as un qui contient 7, ça fait une grande différence dans les malheureux et tristes dommages que tu peux faire. Voilà.
Disons que ta capacité de nuisance, elle est pas mal décuplée.
Oui, c'est justement.
Sinon, tu as des suggestions de lecture du week-end, Félix. On va lire ce que Félix nous propose.
Oui, ben c'est parce que des fois, je m'amuse à conseiller quelques lectures qui sont en lien avec le milieu du crime organisé. Puis je sais que c'est de toute façon, c'est pas pour rien qu'on fait que Hollywood se fend de 1000 documentaires par année là-dessus pour Québec aussi. C'est parce que les gens ont une curiosité pour ce monde-là. Alors, pourquoi pas suggérer quelques lectures qui peuvent les renseigner un peu plus. Alors, ce week-end, allez lire le dossier du quotidien Le Monde qui s'intitule « Comment les narcos des années 1980 ont transformé la cocaïne en industrie ». C'est les journalistes Simon Piel et Thomas Saint-Tourin du Monde qui intitulent un peu leur article « Le roman noir de la coke ». Et il commence en plaçant le sujet de l'héroïne par rapport à la cocaïne, c'est-à-dire que dans les années 80, l'héroïne fait déjà beaucoup de ravages et les opiacés sont extrêmement démonisés, avec raison d'ailleurs, sauf que la cocaïne, dans ce contexte-là, selon les journalistes, se refait une virginité. T'sais. Alors, on a des rockers, on a des écrivains, des hommes d'affaires, des stars de télé qui sont très, très entichés de cette drogue-là, qui est devenue une drogue mondaine. Donc, il y a un degré d'acceptabilité dans certaines classes sociales, puis les trafiquants sud-américains comprennent ça, s'organisent en cartel, engrangent les dollars, mais aussi sèment la mort comme jamais. C'est un long dossier qui va nous amener de Colombie, bien sûr, de Bogota, de Medellin, à Chicago, et puis voilà, je le conseille. Faut s'abonner, par exemple, au Monde pour le consulter. Et c'est là où je me dis, pourquoi pas vous abonner à un quotidien, même si c'est un quotidien d'ailleurs, puis idéalement faites-le ici, là, mais après ça, faites-le ailleurs. Alors, ça vous laissera l'opportunité de lire ce dossier savamment écrit par ces deux journalistes.
Honnêtement, je le feuillette et ça a l'air passionnant. Moi, c'est sûr que je lis ça en fin de semaine.